Chapitre 8. Abus de liberté en faisant chuter un frère. Dans les chapitres 8 à 10 de cette première épître aux Corinthiens, l'apôtre maintient fermement la liberté de l'individu tout en mettant solennellement en garde contre les abus. Au chapitre 8, nous sommes mis en garde contre l'usage de la liberté d'une manière susceptible de faire chuter notre frère. Au chapitre 9, le serviteur est averti qu'il est possible d'user de la liberté au point de tomber personnellement sous la condamnation. Et au chapitre 10, nous sommes mis en garde contre l'usage de la liberté d'une manière susceptible de compromettre notre communion et d'offenser les Juifs ou les nations, les non-Juifs, ou l'Assemblée de Dieu. Versets 1 à 3. Citation de l'Écriture. Pour ce qui est des choses sacrifiées aux idoles, nous savons, car nous avons tous de la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Fin de citation. Dans ce chapitre 8, l'apôtre aborde ce sujet important en plaçant devant nous le danger de changer la liberté de l'individu en laxisme et d'agir selon sa propre volonté sans considérer l'effet de nos actes sur les autres. Il est ainsi possible que la liberté du chrétien devienne une occasion de faire chuter son frère. Pour mieux ouvrir les yeux sur son avertissement, l'apôtre se réfère au problème de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 1. Des croyants de Corinthe, sachant qu'une idole n'est rien, pouvaient se sentir personnellement libres d'entrer dans un temple d'idoles et d'y manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais cela soulève la question de savoir si c'est juste de le faire, si cela doit faire chuter un frère. L'apôtre montre d'abord que c'est une de ces questions importantes qui ne peuvent pas être résolues simplement par la connaissance, mais qui peuvent très vite être réglées par l'amour. Ceci est de toute importance, car le principe appliqué ici l'est en rapport avec la question particulière de manger des choses sacrifiées aux idoles, mais le principe lui-même s'applique plus largement. Si de nos jours nous ne sommes pas confrontés dans nos pays à la question de manger des viandes sacrifiées aux idoles, beaucoup d'autres questions peuvent néanmoins se poser, par exemple la question de fumer pour le chrétien. Certains chercheraient à régler une telle question par la connaissance en pensant seulement aux effets néfastes sur le corps. Mais il est mieux de régler une telle question par l'amour en se demandant « Quel effet cela aura-t-il sur mon frère ?» La connaissance m'occupe avec la chose en question, le pour et le contre, mais l'amour pense à mon frère. Cela conduit l'apôtre à faire quelques remarques importantes sur la connaissance et l'amour. Tout d'abord, il dit « Nous avons tous de la connaissance, en tout cas dans une mesure. La connaissance cependant ne suffit pas. Nous avons besoin d'amour aussi. Il y a dans la nature humaine une grande soif de connaissance, mais si je poursuis la connaissance seulement dans le but d'acquérir des connaissances, cela ne fera que m'enfler, tandis que l'amour édifiera mon frère. En outre, nous connaissons seulement en partie. Faire donc confiance à notre connaissance partielle pour régler les questions nous amènera souvent, malheureusement, à nous égarer. Aimer mon frère et penser à son bien seront un moyen plus sûr et meilleur de régler des questions qui pourraient autrement ne servir qu'à donner de l'importance au moi. Or, comment cet amour pour mon frère peut-il être maintenu en activité? Seulement par l'amour pour Dieu, comme le dit l'apôtre Jean, « Quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. » 1 Jean 5, verset 1. Donc, dans ce passage de 1 Corinthiens 8, l'apôtre parle de l'amour pour Dieu et nous rappelle que si quelqu'un aime Dieu, il comprend non pas simplement qu'il connaît Dieu dans une petite mesure, mais qu'il est connu de Dieu. La conscience que Dieu me connaît, moi et tout ce que j'ai fait, ne laisse aucune place pour l'orgueil qui serait enflé par de la simple connaissance. Versets 4 à 6. Citation de l'Écriture. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'un seul. Car aussi, s'il y en a qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, toutefois pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. » Fin de citation. En outre, la question de manger des viandes sacrifiées aux idoles conduit l'apôtre à esquisser brièvement le contraste important entre les idoles et le vrai Dieu. Premièrement, il dit que nous, les chrétiens, nous savons qu'une idole n'est rien et qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'un seul. Verset 4. L'homme déchu imagine beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs dans les cieux et sur la terre. Mais pour nous, chrétiens, il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Ici, il n'est pas question de placer devant nous la déité de Christ, mais comment il a plu à Dieu de se révéler et la place que les personnes divines tiennent dans les voies de grâce envers les hommes. Le Père demeure dans la déité, et Dieu est la source de tout, et tout est pour lui. Le Fils, sans jamais cesser d'être Dieu, est devenu chair, et dans l'humanité il a pris la place de Seigneur. Ainsi, celui que nous connaissons comme Jésus-Christ est l'unique Seigneur à qui nous devons tous allégeance et soumission. Il est à la fois le Créateur de toutes choses et celui par qui nous avons été rachetés. Versets 7 à 13. Citation de l'Écriture. Toutefois, la connaissance n'est pas en tous. Mais quelques-uns, ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole, mangent des choses comme sacrifiées aux idoles, et leur conscience, étant faible, en est souillée. Or, la viande ne nous recommande pas à Dieu. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons pas moins, et si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne sera-t-elle pas enhardie à manger les choses sacrifiées à l'idole? Et celui qui est faible, le frère pour lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. Or, en péchant ainsi contre les frères, et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si la viande est une occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai pas de chair à jamais pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère. » Fin de citation. Après avoir parlé de la différence entre l'amour et la connaissance, et après avoir placé devant nous le vrai Dieu, l'apôtre montre maintenant que, même parmi les vrais chrétiens, il y en avait qui n'avaient pas cette connaissance complète et qui n'étaient donc pas en mesure, avec leur connaissance partielle, de s'élever au-dessus des préjugés profondément enracinés de leur éducation païenne à propos des idoles. Ils n'étaient apparemment pas entièrement assurés que les idoles ne sont rien et que les viandes qui leur étaient offertes n'étaient pas différentes des autres viandes. Pour de telles personnes, manger des viandes sacrifiées aux idoles leur donnait mauvaise conscience ou souillait leur conscience. En outre, si une telle personne voyait un frère manger des viandes sacrifiées aux idoles, cela pouvait devenir pour elle une pierre d'achoppement et l'enhardir à faire quelque chose lui donnant mauvaise conscience, pouvant l'amener à faire naufrage quant à la foi et à le placer sur un chemin où il périrait. Il n'est pas ici question de la possibilité pour un croyant de périr, car le Seigneur lui-même dit « Ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, verset 28. Dans ce passage de Jean, le croyant est vu du point de vue du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 8, au verset 11, le croyant est vu du point de vue de l'homme. Nous pouvons manquer à notre responsabilité et, en ce qui nous concerne, faire ce qui ferait périr notre frère. En agissant de la sorte, nous ne faisons pas seulement du tort à notre frère, pour qui Christ est mort, mais nous faisons tort à Christ. Verset 12. L'apôtre conclut donc que l'amour pour mon frère me conduirait à ne pas manger de viande si, en mangeant, je fais chuter mon frère.